Et donc, ça m'amène à la question sur la Chine, et je termine par là. Est-ce que la Chine est responsable de la crise actuelle? Pas du tout. La Chine n'est absolument pas responsable de la crise qui a éclaté dans le monde en 2007-2008. La crise n'est pour rien là-dedans. La Chine, pardon. La Chine n'est pour rien là-dedans. Voilà. Mais la crise va toucher la Chine. La Chine n'est pour rien dans la crise. Mais la crise va toucher la Chine. Et la touche peut-être déjà. Pour une raison, pour plusieurs raisons, dont l'une n'est pas indifférente à notre propre combat. C'est-à-dire que le nombre de conflits sociaux en Chine monte exponentiellement. Et c'est ce qui fait que la trajectoire de croissance faramineuse de la Chine ne va pas être éternelle, pour un tas de raisons, dont celle-là. Donc je reviens à votre question, la Chine n'est pour rien dans l'éclatement de la crise, et il se trouve que le fait que les multinationales soient allées, depuis maintenant 20 ou 25 ans, s'installer en Chine pour profiter des conditions sociales extrêmement avantageuses pour elles, a fait que la Chine a décollé à une vitesse supersonique, mais de ce fait-là, comme c'est ça aussi l'un des paradoxes de notre situation, de notre système économique mondial, c'est que ce sont les multinationales, à l'origine occidentale, maintenant il y a des multinationales d'origine chinoise, mais à l'origine c'était des multinationales d'origine occidentale, hein, qui sont allées s'installer là-bas pour profiter des conditions avantageuses, conditions de production avantageuses. Mais ensuite, les marchandises partent de Chine. Et donc il y a des devises qui rentrent dans les caisses de la Banque centrale chinoise, qui depuis donc 20-25 ans a accumulé un magot libellé le plus souvent en dollars, pas qu'en dollars, mais aussi en euros, en yens, etc. Et donc, elle a des réserves. Réserves qu'elle ne laisse pas dormir comme ça dans un coffre. Donc, comme elle a des excédents, et que de l'autre côté du Pacifique, ou de l'Atlantique, du Pacifique pour elle, que de l'autre côté du Pacifique, il y a des déficits en veux-tu, en voilà. Eh bien, les Chinois, pas plus fous que la moyenne des capitalistes mondiaux, eh bien, replacent une partie de leurs réserves dans de l'achat de bons du trésor américains, européens, ou d'actions dans les grandes sociétés qui courent à travers le monde. Et donc, jusqu'à présent, en tout cas, c'était un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire que. Prenons le cas de la Chine et puis des États-Unis, même s'il y a d'autres partenaires autour et d'autres concurrents autour. Mais pour simplifier les choses, regardons ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis sont en déficit sur tous les plans, déficit commercial et déficit du budget fédéral, et déficit des États eux-mêmes assez souvent. Bon, bref, c'est
tout.
Ce que je disais, des fédéral, et puis chacun des États et inter les États, des collectivités locales. Donc, déficit sur tous les plans. Bon. Et donc, pour combler ces déficits, il faut là aussi emprunter sur les marchés des capitaux, puisque, comme je l'ai dit au début, ces marchés des capitaux sont totalement ouverts. Bon. Et donc, sont en partie les fonds, les réserves chinoises ou japonaises ou européennes. Parce qu'il y a un taux d'épargne en Europe qui est colossal. On est en crise, mais il y a un taux d'épargne colossal. Épargne qui est canalisée par les institutions financières comme les assurances via les achats de bons du trésor américains ou ailleurs. Et donc, si les Chinois voyaient, par exemple, le dollar s'effondrer, la valeur réelle de leurs réserves en dollars s'effondrerait. Et donc, c'est pour cette raison que le combat diplomatique entre les États-Unis et la Chine se fait à fleurir moucheté, c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas intérêt à ce que les avoirs qu'ils détiennent sur les trésors publics étrangers soient trop dévalorisés. C'est pour ça, d'ailleurs, que si vous avez suivi le détail de ce qui s'est passé au Conseil européen du mois d'octobre dernier, du 27, quand ils ont créé le FESF, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Fonds européen de stabilisation financière, ils ont dit que ce fonds de stabilisation financière pourrait être abondé par des placements chinois ou des pays émergents, le Brésil, les pays producteurs, les Émirats arabes, etc., etc. Donc vous voyez, finalement, on boucle, avec cette question très intéressante, on boucle ce que j'avais énoncé tout à fait au début, c'est-à-dire que le point de départ de ce gigantesque casino qui s'est installé dans le monde, c'est la décision de libérer totalement la circulation des capitaux, et dont on voit aujourd'hui les résultats.